est 15h37. Tabarnouche, ça s'en vient. Je vais avoir un indice à donner tantôt. Hein. Ils m'ont dit 16h pile. Écoute, Denis, c'est un concours excessivement important pour l'entreprise. Ça serait peut-être important que pour une rare fois dans ta très longue et prestigieuse carrière, si on le reconnaît, là, on veut absolument rien t'enlever à ce niveau-là, mais quand même, ce serait bien que, selon les standards de Leclerc Communication, une fois dans ta vie, tu respectes une heure. Ce serait vraiment apprécié, hein, par les patrons que je représente au nom de Jean-François et Nicolas, dont je me fais l'émissaire, là, mais je veux pas dire que ça vient pas de moi, mais en fait, non, on est trois. On passe le message à trois, c'est ça que je veux dire. Là. C'est pas juste, je suis pas un émetteur ou un répéteur. Ce que je veux dire, c'est que c'est une discussion qui se fait avec tout l'environnement de Leclerc Communication et la ponctualité, bien, ça fait quand même partie. Si tu as bien lu là, le cahier et les nombreux fascicules qu'on t'a remis lors de ton arrivée chez Leclerc Communication, à la page 35, l'alinéa 4 que je connais par cœur, la ponctualité est vraiment un signe évident de professionnalisme qu'on apprécie, donc ça serait vraiment important que tu sois là à 16h pour l'indice. D'accord, patron. Merci, patron. C'est ta paire de billets, après tout, patron. Donc, 16h tapant, c'est sûr que je vais donner l'indice. Comme j'ai dit à Mathias, 15h30, on commence notre conversation, il n'y en a pas de problème. 15h37, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Mathias est là, presque à l'heure, Mathias.
Presque, ben, y a une amélioration quand même.
Hein? Oui, je trouve qu'on s'est tellement amélioré qu'on va faire les routes avant. Audrey, dans la circulation.
Je ne prendrai pas trop de ton temps, Mathias. Si vous êtes sur la capitale direction Est en ce moment, entre Henri IV et Robert Bourassa, il y a un ralentissement qu'on sent bien. Direction Ouest, c'est entre Bourg-Royal et Laurentienne. Si vous êtes sur Robert Bourassa, direction Nord, c'est entre Charest et la capitale. Henri IV Sud, de Wilfrid Hamel au pont, au ralenti. Si vous êtes sur Duplessis Sud, de Charest au pont, c'est au rouge. Des problèmes sur Charest Est entre Duplessis et Henri IV. Également sur Henri IV Nord, je vous dirais dans le coin de Sainte-Geneviève, ça ralentit pas mal devant la base militaire, aussi route de la Bravo dans les deux directions. Route de Fossambault, ça passe entre Désérable et de la Jacques-Cartier. Et pour ce qui est de la 20 direction ouest, c'est surtout, je vous dirais, à la hauteur de Taniata. Si jamais il y a autre chose, 88-971-102 texto.
Pour écrire à notre journaliste terrain, l'adresse citoyen@blvd.fm, ce qu'a fait Stephen Blainey pour te convoquer à une conférence de presse pour nous confirmer que si vous êtes tanné des travaux sur la Rive-Sud, ben soyez tanné parce que c'est pas fini.
Ils m'ont convoqué personnellement, oui, là, à mon adresse.
Oui. Il a écrit lui-même à citoyen@blvd.fr.
Il nous a-tu écrit par texto aussi?
Aussi, absolument. Aussi. Oui. C'est pas un narratif que j'invente pour bien te faire paraître. Là. C'est vraiment ce qui est arrivé.
Ouais. Il t'a-tu demandé personnellement aussi, Denis, de venir?
Non, il sait que je viens pas.
Hein, il savait que tu n'avais pas te déplacer sur le bord de l'autoroute 20 pour faire un scrum.
Par contre, si j'avais su que lui, Bernard Drainville et Benoît Charrette allaient porter les casques de construction et les petites chemises jaunes, parce que je viens de voir la une du site du Journal de Québec, puis en voyant les trois côte à côte avec les petites chemises, les casques et les lunettes, ça me donnait l'impression que le prochain Minions allait faire dur. Mais c'est ça. Ils ont tourné coin rond un peu, hein, mais... Non, c'est ça. Donc, c'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle à la fois pour les gens de la Rive-Sud.
Mais, en fait, c'est une confirmation de quelque chose qu'on savait déjà depuis des mois.
On était déjà au courant, là, comme tu l'as dit, Stephen Blainey, Benoît Charrette et Bernard Drainville, tous les trois qui étaient présents tout à l'heure. C'est pour annoncer le début des travaux, justement, d'élargissement.
Parce que, tu sais, ça fait quoi, deux semaines que le ministère des Transports nous a envoyé les entraves, là?
Oui.
Fait que, on le savait que ça allait commencer. Ah oui. C'est que ça paraît bien, c'est une sortie politique.
Pis ça fait déjà des années qu'on sait que les travaux vont avoir lieu. Là, on les a mis un an plus tôt. Là, on a commencé ça dès cette année. C'était pas nécessairement ça le plan initialement, mais on essaye de nous présenter ça comme gouvernement Fréchette va de l'avant. On répond à des promesses du gouvernement Fréchette. C'est parce que ça, c'était une promesse qui est là depuis longtemps, puis c'était dans les cartons depuis longtemps. Mais on commence ça. Première phase de travaux, 3,5 km donc en direction ouest, entre la sortie Chemin du Sault et Taniata. Donc ça va se terminer cet été. Au total, c'est 10 km qu'on va refaire de Kennedy jusqu'à l'entrée des ponts, justement, en direction ouest, qu'on va rajouter une voie. Ça va se terminer tout ça en 2029. Là. La question a été posée au ministre Charrette. Est-ce que ça va faire une différence sur le long terme? Parce qu'on a ramené encore les mêmes études qu'on amène pour les nouveaux ponts. Lorsqu'on amène une nouvelle voie de circulation, on voit un effet court terme, mais pas nécessairement un effet long terme. Le ministre Charrette a répondu en indiquant que c'est pas seulement en raison de la grande densité de population qu'on a décidé d'élargir.
Oui, la population, elle a augmenté de façon importante depuis, mais il y a aussi les ponts qui amènent une configuration particulière. Et sur les 10 kilomètres en question, il y a des sorties d'autoroute aussi qui sont cruciales. On parle naturellement de président Kennedy, mais compte tenu de la configuration, compte tenu de la présence des ponts, on ne fait pas qu'élargir pour élargir. On vient permettre d'arrimer ces infrastructures-là de façon beaucoup plus cohérente. Et oui, ça va améliorer la qualité de vie des usagers là, de façon indéniable.
Ce qui me tanne, puis je sais que je suis redondant avec ça, c'est que j'ai l'impression, encore une fois, qu'on fait du patchage section par section sans jamais avoir un vrai plan d'ensemble de développement pour faire fitter tous les blocs ensemble. Mais ça donne que présentement, tu as des travaux des deux côtés, des deux ponts, ou à peu près, et qu'on est encore pogné là-dedans pour un petit bout.
Puis on a parlé du tablier du pont de Québec. J'ai pas nécessairement d'extrait, mais on a dit qu'on était encore en étude si on, par rapport aux possibilités de l'abaisser ou non. Fait qu'on devrait avoir des nouvelles sur ça au cours des prochaines semaines. Même chose pour le troisième lien à l'est. Bernard Drinville, qui est ministre de l'Économie, désormais était présent également. Donc, on a traité d'autres sujets.
Comment il va, Bernard?
Il va bien.
Il est de bonne humeur?
Ben, on était à Lévis. Il est tout le temps de bonne humeur quand il est à Lévis.
Il est avec les gens de Lévis.
Non, oui, je sais, mais il ne faut jamais oublier les gens de Lévis. Mm-hmm. Mais j'avais l'impression qu'il allait devenir un peu le schtroumpf-gorognon de la place, là. Tu sais, t'as perdu ta course, t'as décidé de rester, mais non, il est jovialiste.
Ben, il est rendu super ministre. Hein? Ouais, il est rendu ministre de l'économie. Là. Bernard Drinville, puis je pense que ça s'en vient de plus en plus connu depuis qu'il est chez la CAQ. Il n'a pas nécessairement toujours eu des ministères qui faisaient son affaire.
Oui, mais là, super ministre, attendons de voir son bilan. Là, place, pour dire là. Super ministre.
Oui, c'est plus les titres qui...
Hey, si je me mets en bobette puis je te dis je suis Superman, tu peux attendre un peu là, tu sais, que je sauve quelqu'un, je sais pas, là, mais... J'essayais de faire appel à ta sensibilité des bandes dessinées.
Ouais. Oui, oui, oui. Oui.
Faire une image.
Je comprends, mais j'aime mieux pas avoir d'image de toi en bobette.
OK, c'est,
ça.
C'est malheureux. Dis-le pas à Man-Made, je veux devenir porte-parole.
Mais oui, donc Bernard Drinville, on a traité de Churchill Falls, qui fait jaser depuis le début de la semaine, l'entente entre le Québec et justement Terre-Neuve qui nous permettait d'avoir accès à l'électricité produite justement au complexe hydroélectrique de Churchill Falls. Puis là, cette entente-là semble un peu prendre l'eau. Un rapport indépendant qui a comme dit que c'était pas dans les intérêts de Terre-Neuve de signer l'entente.
Il y a eu des changements de gouvernement qui ont amené ça, puis ça faisait partie des engagements. Fait qu'il y avait comme pas le choix d'aller là.
Puis présentement, on a comme l'accès sécurisé jusqu'en 2041 avec l'ancienne entente. La question a donc été posée à Bernard Drinville. Si on n'est pas capable d'arriver à un nouvel accord, est-ce que c'est possible tout simplement qu'on conserve l'accord actuel puis que ça en finisse là? Il n'a pas fermé la porte.
C'est-tu lui qui est responsable de négocier avec Terre-Neuve puis Churchill?
Il est ministre de l'économie et de l'énergie, etc. Donc oui, en grosse partie.
Super, ministre.
Dans une position où il faut revenir à l'entente de 2041 avec le tarif qui s'applique, cette possibilité-là, elle existe. C'est pas notre premier choix. La première option, c'est vraiment de s'entendre pour lancer des travaux à Churchill puis à Gull Island. Mais si pour une raison ou pour une autre, ce n'est pas possible de s'entendre sur une entente gagnante pour le Québec et pour Terre-Neuve, bien à ce moment-là, on n'aura pas le choix. Mais ce n'est pas notre premier choix.
Je veux bien, là. Mais... Fait qu'on on va aller négocier en sachant qu'on n'a pas le gros bout. C'est un peu ça.
Bien, j'ai envie de te dire que aucun des deux côtés a vraiment le gros bout parce que
c'est de la politique qu'ils ont fait.
C'est ça, c'est de la politique. Puis Terre-Neuve est comme, c'est pas à notre avantage. Mais en même temps, l'électricité, tu peux pas décider de vendre ça n'importe où. Mm-hmm. C'est des gros réseaux structurants qui coûtent excessivement cher. Donc Terre-Neuve aussi, au final, leur avantage, c'est de vendre ici leur électricité. Donc c'est sûr qu'on va voir le tout avancer. Mais je dirais qu'il n'y a pas grand monde qui a le gros bout du bâton. C'est surtout Terre-Neuve qui a fait une promesse que, visiblement, c'est peut-être pas à son avantage tant que ça à respecter jusqu'au
protocole, bout. Ouais.
Le fédéral, es-tu impliqué là-dedans?
Mais c'est ça qui est intéressant, parce que le fédéral n'a pas vraiment d'affaires là-dedans. L'énergie, c'est d'essor provincial. Puis là, on voit un gouvernement Carnick, j'ai envie de dire, suit un peu les tendances libérales historiques, qui a tendance à venir un peu s'immiscer au sein des responsabilités provinciales. Trudeau le faisait à quelques reprises également. Mais là, Mark Carney, côté électricité, côté énergie, semble beaucoup vouloir le faire. Terre-Neuve a demandé au gouvernement fédéral d'intervenir. Mark Carney a dit que s'il pouvait faire de quoi, il allait le faire. Bernard Drainville semble pas d'accord avec cette vision de la chose.
La négociation concerne les deux provinces et concerne les deux sociétés d'État. Puis si le fédéral a des choses à proposer pour la fosse du Labrador, par exemple, bien, on va écouter. Mais tout ce qui concerne l'entente sur Churchill et Gull Island, ça concerne les deux provinces, puis ça doit rester comme ça.
Ce qui est particulier, c'est que vraisemblablement, ces négociations-là vont dépasser la durée de vie de ce ministre-là et de ce gouvernement-là, de notre bord et peut-être de l'autre bord aussi. Là.
C'est ça qui est arrivé, tu sais, parce que l'entente originale datait des années 60. On avait signé un protocole d'entente. Fait que l'entente n'était pas signée. Il y a le premier ministre du Labrador qui a donné sa démission. Ça a donné qu'entre-temps, il y a aussi notre premier ministre qui a donné sa démission.
Ben oui.
Fait que c'est ce qui nous a amené là. Pour ce qui est de Carney, c'est qu'il avait annoncé sa stratégie d'électrification nationale. Il veut doubler la production d'énergie à travers le Canada. Puis ce que le fédéral mentionne, c'est que les réseaux sont fragmentés selon les provinces. Ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aider à ce qu'il y ait une plus grande cohérence. Puis c'est pour ça qu'il pourrait peut-être aider. T'sais, si le fédéral amène de l'argent au moulin pour aider des grands projets, bien dans ce temps-là, on est peut-être un petit peu plus à l'écoute.
On n'est pas loin d'une campagne électorale. C'est l'automne prochain.
Ouais.
Mettons qu'il y a quelqu'un de la CAQ qui cogne à la porte chez vous pour vous demander de vous présenter au sein de la CAQ là, dans une équipe gagnante.
Moi, je préférais recevoir un courriel.
Ouais, on fait du recrutement par email.
Oui, c'est sorti dans la presse aujourd'hui. Ouais. On tente de recruter des jeunes du côté de la CAQ par courriel. Donc, on a envoyé un courriel aux jeunes membres de la CAQ parce que Christine Fréchette a fait une promesse que 25 de ses différents candidats aux prochaines élections seront âgés de moins de 30 ans.
T'as même donné un chiffre de même, hein? Parce qu'il faut que tu le portes.
T'as pas le choix
après ça
de le respecter. Puis là, ça semble un peu difficile de recruter du côté de la CAQ. La question a été posée encore une fois au ministre Charrette aujourd'hui. Est-ce que c'est plus difficile de recruter cette année par rapport à 2022 du côté de la CAQ? On a évité la question. Là. Je vous laisse entendre.
Vous allez voir là, au cours des prochaines semaines, on va se concentrer sur les travaux parlementaires. On va se concentrer sur des projets que l'on veut faire avancer.
Ouais.
Et on se mettra en mode électoral au bon moment. Mais il y a un travail qui se fait.
Ça veut dire que ça va pas bien parce que sont en mode électoral depuis que Mme Charrette est in the house. Là, c'est pour ça qu'on fait des annonces. Faut pas nous prendre des niaiseux non plus.
Puis il y a un travail qui se fait. C'est pas parce qu'il y a un travail qui se fait que le travail est nécessairement positif non plus.
Ouais. Puis je dirais que de façon globale, dans le climat actuel, c'est pas juste la CAQ qui doit rusher à trouver des candidats. Là. J'ai l'impression que c'est un problème qui doit être étendu pas mal à grandeur. Là.
Ben oui, mais en même temps,
il y a beaucoup d'annonces
c'est ça.
Parties,
le Parti libéral a beaucoup de candidats vedettes annoncés dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Même chose du côté du PQ.
Ils ont été très actifs, eux autres. Le recrutement, ça fait des mois qu'ils se travaillent et qu'ils se font bien. Puis, tu sais, de part et d'autre, les sondages laissaient penser que tout était possible pour ces deux parties-là. Là, c'est peut-être un petit peu moins vrai, sauf que les ententes étaient déjà faites. Du côté de la CAQ, le FOC, c'est que les sondages étaient tellement pas bons qu'il y a plein de députés qui ont annoncé qu'ils ne se représenteraient pas. Il y a des ministres qui sont encore ministres à ce moment-ci qui ne reviendront pas à l'automne. Mais pendant ce temps-là, pendant que la CAQ a géré sa décroissance, il n'y a personne qui lève la main en disant « Moi, je vais venir, puis moi, je vais me présenter avec vous autres. » Fait que c'est pour ça que eux, c'est tough, alors que les autres évoquent à la galère, là.
Merci, Mathias.
Ça fait plaisir.
Mathias Turcotte, que vous pouvez rejoindre, je vous le rappelle, à l'adresse citoyen@blvd.fm. Il est 4h, moins 10. Gravel. Boulevard.